enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors ce matin, un remède pour une société en dépression, peut-être que des politiques nous regardent. Eh bien, je les encourage à écouter parce que je crois qu'il y a également des solutions pour, eh bien, ceux qui dirigent notre société. Et comme remède à une société en dépression, eh bien, je vous propose le don de vous-même. Dans Jean chapitre 10, versets 14 à 15, Jésus dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Et je donne ma vie pour mes brebis. En introduction, permettez-moi simplement de vous dire que nous sommes, et il me semble que cela n'échappe à personne, dans une société profondément déprimée. Vous le savez, pour une fois que les Français retiennent un record, c'est celui des premiers consommateurs de calmants en Europe. Actuellement, vous avez régulièrement des clips à la télévision parlant de la dépression, montrant aux gens que s'ils sont dans tel et tel état, il fallait qu'ils aillent se faire soigner. Nombre de nos contemporains, eh bien, sont atteints par ce mal, sont déprimés, dépressifs, et le nombre, malheureusement, des suicides ne va pas en diminuant, mais va en augmentant, et ça dans toutes les tranches d'âge. Notre société est réellement malade. Et Jésus dit que vous et moi, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. En d'autres mots, nous sommes appelés à vivre ensemble en étant un exemple pour ceux qui sont encore au dehors et qui souffrent. Je veux, au travers de ce message, non pas directement aborder le problème ou la problématique de la dépression, mais je désire dénoncer ce matin un comportement égoïste qui engendre une société individualiste où le mot d'ordre est le suivant, chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Et j'ai commencé à constater que nous avions là une société qui était devenue une vraie machine à fabriquer des solitaires, des dépressifs et des suicidaires. Mais ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose. Souvent, quand on parle de la société, évidemment, on parle des autres, mais jamais de nous. Cependant, quand je parle de la société, je parle de vous et de moi, parce que nous faisons partie intégrante de la société dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans nos villes, nous vivons dans nos villages, nous allons dans nos lieux de travail. Nous faisons partie intégrante. Ce message s'adresse pas d'abord à ceux qui sont à l'extérieur, il s'adresse à vous et à moi. Si vous et moi nous changeons, alors il y a beaucoup, beaucoup d'espérance pour ceux qui sont autour de nous. Et Jésus est venu pour que les choses changent. Je fais un constat. Le don de soi est devenu une denrée rare. Regardez. Aujourd'hui, au niveau associatif, par exemple, on parle de crise du bénévolat. Les associations ne trouvent plus de bénévoles. Et tous les bénévoles qu'ils ont des cheveux blancs. Allô? On a l'impression que les associations sont devenues des maisons de retraite. C'est un vrai problème. D'ailleurs, aujourd'hui, l'un des problèmes, entre autres associatifs, eh bien, c'est que si vous voulez des gens qui viennent vous aider dans l'association, il faut les payer. Mais à partir de ce moment-là, c'est plus du bénévolat. Et puis vous découvrez que ce problème touche finalement de plein fouet notre société, surtout en temps de crise. Souvenez-vous, et c'est mon fils qui m'a rendu attentif à cela d'ailleurs, je le salue, il est à Borum, et je sais qu'il suit le culte tous les dimanches matins puisqu'il a son culte en allemand l'après-midi. Il me disait, une des conséquences de cet individualisme a été la canicule de l'été 2003 et ses conséquences. 15 000 décès supplémentaires en grande partie dus à la solitude des personnes âgées. Mais on a déjà oublié, c'est loin, il y a 4 ans. Ah, c'est vrai qu'après, après la canicule, tout le monde se mobilisait. Mais maintenant, qui se mobilise encore? Chacun finalement, eh bien, est revenu à ses propres soucis, ses propres problèmes, et ne pense plus aux autres, individualistes. Ça révèle un mal profond. Et ce mal profond est décrit par l'apôtre Paul dans la deuxième épître à Timothée. C'est l'égoïsme. Hello? C'est l'égoïsme. Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. Le fait que les hommes, et quand il est parlé là des hommes, mesdames, vous êtes pleinement inclus. Je voudrais pas que vous ayez le sentiment que cela ne concerne que vos voisins masculins. Quand Paul parle, il explique clairement que les temps seront difficiles à cause de l'égoïsme. L'égoïsme rend donc les temps difficiles. Et nous sommes aujourd'hui dans des temps terriblement difficiles. Ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Il en a des adjectifs, hein? On aurait dit qu'il n'en a pas trouvé assez pour qualifier la génération qui sera caractérisée par l'égoïsme, rebelle, insensible. Une société sensuelle où, eh bien, l'objectif, ce sont les plaisirs. Chaque individu ne vit que pour lui. D'ailleurs, une phrase revient régulièrement. Je veux profiter de la vie. Je veux profiter de la vie. À partir de ce moment-là, tous les coups sont permis. J'ai qu'une vie, on me l'a déjà dit souvent. Pasteur, j'ai qu'une vie, je veux en profiter pleinement. Tout ce que je peux faire, je vais le faire, quel que soit le prix. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi dans les quartiers difficiles, il y avait tant de rébellions parmi les jeunes? Eh bien, c'est directement rattaché à cela, et c'est un mal profond. Et si des politiques nous écoutent ce matin, j'aimerais vous leur dire, messieurs les politiciens, écoutez bien. Parce que les générations actuelles n'ont plus d'espérance, parce qu'elles ne croient plus en Dieu, parce qu'elles n'ont pas l'espérance de la vie éternelle, tout se résume aux quelques jours qu'ils vont passer ici-bas. Et il est évident que les jeunes ne veulent pas le passer dans leur quartier difficile, ils veulent profiter de la vie comme les autres. Alors ce qu'on leur donne pas, ils vont le chercher de gré ou de force. Mais le problème, c'est qu'ils révèlent un mal profond, c'est celui d'une absence d'espérance, d'une coupure totale d'un Dieu qui donne un sens à la vie. On veut vivre maintenant, tout de suite, pleinement. Le péché est toujours très égoïste. Quand je vole parce que je veux la chose que l'autre possède, il est évident que je ne pense pas à ce que l'autre va vivre après que je lui l'ai volé. L'adultère, c'est très égoïste. C'est mon plaisir. Je veux la femme de l'autre et je vais la prendre au détriment de sa famille, au détriment de ma femme, au détriment de ses enfants. L'acte que David fera en prenant Bathsheba, la femme d'Uri, était un acte profondément égoïste. Elle est belle, je la veux. Tous les dégâts collatéraux que ça allait causer lui était finalement égal. Résultat des courses, un homme innocent va mourir. Un enfant va mourir. Au lieu de bénédiction, c'est la malédiction qui s'abat. Mes amis, cette mentalité est la mentalité de notre société. Jude, d'ailleurs, l'a décrit dans l'épître de Jude, il dit, au verset 16 à 18, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ce sont des gens qui murmurent. On est en plein dedans. Hello. On revendique toujours. On parle de solidarité nationale, mais en même temps, les revendications font la démonstration que nous, la solidarité nationale, on n'y participe pas. On revendique, on descend dans les rues, on fait toutes sortes de choses. Je ne veux pas commencer à analyser ce qui est en train de se passer un peu partout. Mais j'aimerais dire la chose suivante. C'est une marque de la société dans laquelle je vis et c'est une démonstration que je suis à la fin des temps. À la fin des temps, il en sera comme du temps de Noé, dit Jésus. Comment étaient les gens du temps de Noé? Les gens étaient violents. Sont-ils différents aujourd'hui? Non, au contraire. Mon frère, ma sœur, on veut faire valoir nos droits, pas forcément nos devoirs, bien sûr. D'ailleurs, il y a une émission que j'ai regardée l'une ou l'autre fois. Pas souvent, parce qu'elle m'énervait profondément. Mais j'ai trouvé que cette émission était vraiment le reflet de ce que nous sommes devenus. Cette émission porte un nom, le maillon faible. Vous avez déjà vu quelque chose de plus ignoble que ça? Mais enfin, c'est vraiment la méchanceté humaine dans toute sa beauté. Si on peut parler de beauté en parlant de méchanceté. Le maillon faible. Et on les voit comme des requins se dévorer les uns les autres. Faire des coalitions d'intérêts. Un jour, j'en ai vu un. Il a voté pour l'élimination d'un autre qui avait parfaitement bien répondu. Et ils étaient à plusieurs à le faire. On lui a demandé, pourquoi avez-vous voté contre lui? Parce qu'il est meilleur que moi. Et si je veux arriver en finale, il faut que je l'élimine. L'autre jour, par contre, je voyais l'animatrice de cette émission qui était sur un plateau de télévision et qui était en dépression. Ça, c'est une société cynique, froide. On met en évidence la réussite de certains pour exciter tout le monde. On fait des promesses qu'on ne tiendra jamais. D'ailleurs, Louis XI avait une phrase qui m'a fait réfléchir. Louis XI disait, les Louis, c'est quand même des sacrés copains, hein. Même celui de Gunzbar, là. Louis XI disait, en politique, il faut donner ce qu'on n'a pas et promettre ce qu'on ne peut pas donner. C'est intéressant, hein. Quelqu'un dit ça, c'est vrai. Une société dans laquelle le pauvre, le malheureux, le désespéré n'a plus de place. Mais au contraire, une société qui produit des désespérés. À Peugeot, cette année, 5 suicides. 5. Sur leur lieu de travail, des hommes se prennent la vie. Il y a donc un profond mal-être. Il y a donc un profond malaise. Et je le redis parce que l'homme s'est séparé de Dieu. Parce que l'homme a été réduit à l'homme animal. Anima de l'âme, à ses sens. Un jour, j'ai observé un animal que j'avais, c'est mon chien Black, feu Black. Il est décédé. He is decedied. J'ai observé mon chien et je me suis dit, mais il ressemble à pas mal de gens quand même. Tout ce qu'il préoccupe, c'était la gamelle. Il vivait pour la gamelle. Et quand on lui donnait pas la gamelle, quand il le voulait, il la cherchait chez mon père. Écoutez bien, il était malin. Et ça vous montre à quel point on peut devenir cruel quand on ne pense qu'à soi. Mes parents avaient un chien qui s'appelait Happy. Feu Happy, lui aussi. Ce fut une hécatombe dans la famille. Happy était parfois attaché parce qu'il avait la vilaine tendance à s'enfuir. Qu'est-ce que faisait Black? Black savait que le papa Jean prenait aussi bien soin de Happy que de lui-même. Donc il y avait toujours quelqu'un qui allait donner quelque chose à Happy. Black, sachant cela, quand il n'avait rien dans sa gamelle, allait chez Happy comme il savait que l'autre était attaché. il lui piquait la gamelle, il partait avec en courant. L'autre au bout de sa chaîne. Et comme ça, à 10 mètres, en regardant son copain attaché, il mangeait la gamelle. C'est cruel, hein? C'est cruel. Et vous savez que les humains font la même chose? Vous saviez pas? Deuxième passion de Black. Se dorer la pilule au soleil. Un jour, j'étais dans le jardin en train de piocher. Je piochais, j'ôtais les mauvaises herbes. Je me donnais de la peine. Je transpirais. Et à un moment, je me suis littéralement découragé. Moi, je bossais, mais je bossais comme un mulet. Et Black, attendez, il était couché au soleil, sur le dos, les pattes comme ça, et me regardait. Et je me disais, je me demande qui a la vie des chiens de nous deux. Ça m'a tué le moral. On vit pour les loisirs, le repos, dorer la pilule. Troisième grand axe de la vie de Black. Les femelles. Alors, j'avais pas besoin de vous dire quand j'ai dérapé là. Enfin bref, vous m'avez compris apparemment. D'ailleurs, j'ai une voisine un jour qui habitait de l'autre côté. Elle me dit, monsieur Peter Schmidt, votre chien, c'en est un sacré, hein? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, écoutez, dans ces années, je crois 10 ans, il a fait 29 petits à ma chienne. C'était un berger allemand. Ça a donné de superbes chiens, tout blancs, ressemblant à des labradors. Elle me l'a jamais dit, elle les a tous vendus, hein? Ah ouais? Mais ça, c'était Black. Et quand je pense à l'homme animal, l'homme réduit à son âme, l'homme réduit uniquement à ses pulsions, à ses envies, à ses sentiments, à son instinct de survie, ça me donne quelque chose de très égoïste, de très centré sur soi. L'homme, mes amis, a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé pour être en communion avec Dieu et en communion avec les autres, pour aimer et être aimé, et non pas pour tout centrer sur lui. C'est mon deuxième point. Dans la nature, tout vous montre que la vie doit couler, doit toujours circuler. Regardez, Dieu a voulu, pour que la vie se multiplie, qu'un homme se donne à une femme et qu'ensemble ils aient des enfants. Il y a toujours un don qui est fait, se donner soi-même. Dans le corps humain, même le corps humain fonctionne comme ça. Même le corps humain est organisé comme ça. Alors, je suis pas médecin, je prends beaucoup de précautions parce qu'il y a des médecins ici. Si vous devez me corriger, corrigez-moi à la fin quand il n'y a plus personne. Le poumon récupère l'oxygène que l'air lui donne, il va le donner au sang qui va le redonner au corps tout entier. Ça circule. La vache broute l'herbe, donne du lait, les Suisses en font du chocolat et nous on l'achète. Rien n'est figé. Tout bouge. Pourquoi est-ce que l'eau de la rivière ne pourrit pas? Pourquoi elle ne croupit pas? Parce qu'elle se donne toujours plus loin. Elle se donne toujours plus loin. Le principe de vie est donc inscrit dans le fait de donner. Et Dieu l'a voulu. Cependant, l'homme sans Dieu en est incapable. Regardez le sang qui ne coule plus dans un membre, et c'est un membre qui se nécrose et qui doit être amputé. L'eau qui ne circule pas, c'est une eau qui va croupir. Elle sera impropre à toute forme de consommation. Une personne qui ne vit que pour elle-même automatiquement va finir en s'étouffant. Elle s'étouffera. Elle finira seule et malheureuse. Alors ce matin, à tout cela et beaucoup d'autres choses que j'aurais pu dire, j'ai un remède, le don de soi. Il est le seul antidote à ce mal que l'on appelle l'égoïsme. Mais pour le vivre et le vivre pleinement, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que l'homme pécheur ne vit pas pour les autres, il vit pour lui-même d'abord. Il faut que nous apprenions au travers de la parole de Dieu quel bonheur il y a à se donner. Écoutez, l'apôtre Paul dit la chose suivante dans Actes 20, 33-35. Il nous montre que finalement, tout ce qu'il faisait, tous ses efforts, tout son travail n'avait qu'un sens. C'est donner. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à... Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Papa Jean, dis-le à Isabelle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais vous dire, quand j'éprouve les joies les plus grandes, je ne les éprouve pas quand je reçois un cadeau, mais quand je peux en faire un. C'est là que je me réjouis. Dominique, arrête de faire tes commentaires au premier rang, tu me perturbes. Dominique, écoute. Un cadeau trop fréquent, c'est plus un cadeau, c'est une habitude. Donc ça perd sa valeur. Et puis, je t'ai fait cadeau de ma personne, hein? Quand même. Donner et se donner, c'est l'exemple que Jésus nous a laissé. N'oubliez jamais ça, jamais ça. Parce que voyez-vous, le problème que nous avons, c'est que cette fameuse société que j'ai décrite tout à l'heure et qu'on m'entende ce matin, je ne suis pas là à la juger, j'en fais partie. Je suis plutôt là à prendre conscience que j'ai quelque chose à faire pour que ça puisse changer. Je ne veux pas montrer les gens du doigt. Je veux me montrer du doigt en disant, Seigneur, je veux me remettre en question parce que ce comportement social, on le vit à l'extérieur, mais on l'emmène aussi dans l'église. Jésus dit que si vous voulez vivre le bonheur, il vous faut donner. Si quelqu'un veut venir avec moi, version français courant, écoutez ce que Jésus dit. Est-ce que quelqu'un veut venir avec lui? Levez voir la main, tous ceux qui veulent suivre Jésus. Ceux qui ne veulent pas le suivre, ben, rentrez à la maison, hein, ce n'est pas ici qu'il faut rester. Allez, on lève encore une fois nos mains. Moi, que Dieu voit vos mains. Moi, ce n'est pas moi qui les vois. Dieu les voit. Ok, écoutez bien. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Hello. Qu'il cesse de penser à lui-même. Achtrich. Tu peux pas suivre Jésus tout en restant égoïste, c'est pas possible. Tu ne peux pas suivre Jésus tout en voulant vivre pour toi-même. Tu ne peux pas. Qu'il cesse de penser à lui-même. Ça, c'est une phrase choc. Qu'il porte sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Mes amis, les gens aujourd'hui ont le sentiment que s'ils profitent pas de la vie, ils la perdent. Mais nous avons compris que si nous la donnons, nous la retrouverons. Jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Malheureusement, beaucoup de chrétiens crient « Amen !» Mais dans les faits, demain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va rester de cette prédication? Je l'ai entendu ce matin au travers d'une prophétie. Ils n'entendent plus et ne mettent plus en pratique. Ça sert à rien qu'on se gargarise de bonnes décisions. Regardez, le savon ne vous rend pas propre. À un moment donné, il faut le prendre. Entendre des vérités bibliques, c'est bien, les applaudir, c'est très bien. Les vivre, c'est bien mieux. Le principe est clairement établi en cessant de penser à soi-même. En acceptant de crucifier notre individualisme, notre égoïsme, en acceptant le renoncement à nous-mêmes, la perte d'une vie centrée sur nous, et cela pour Jésus, vous êtes garantis que vous la retrouverez. 4e point, donner sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. Si le don de soi est un principe naturel voulu par Dieu, c'est un principe contre nature pour l'homme pécheur. Le chrétien est motivé par l'exemple de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous nous disons chrétiens, il faut qu'en nous on revoie Christ. Ça veut rien dire sinon. Qu'est-ce que ça veut dire? Une étiquette? Il faut qu'on voit Christ. Il nous est dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Jésus a donné sa vie, on ne la lui a pas arrachée. Il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît, je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis, je la donne. Jésus, on n'a pas eu un Jésus frustré sur la croix en train de mourir, en disant, Seigneur, tu vois ce qu'ils m'ont fait. Moi, pourtant, je leur ai tout donné. Je suis déçu. Aucune phrase de ce type-là dans la Bible. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait volontairement, délibérément, sans jamais le regretter. Ça, c'est le Christ. Ça, c'est mon exemple. Ça, c'est ton exemple. Chaque fois que je célèbre la Sainte Cène, je me rappelle qu'il s'est donné. Et en prenant la Sainte Cène, je lui dis, je veux me donner. Lorsque je donne, il n'y a pas de frustration. Parce que je renonce volontairement à ce qui m'appartient. Et finalement, posons-nous la question, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous appartient? Frère Jean-Marie, que n'ai-je que je n'ai reçu? Et si je l'ai reçu, de quoi me glorifierais-je? De quoi me glorifierais-je? Que n'ai-je que je n'ai reçu ce matin? Donner sa vie inclut d'accepter la trahison, la moquerie, toutes ces choses-là. Vous savez, souvent, on dit, moi je voudrais bien donner, mais on me le rend jamais. Ah ben, c'est ça le problème. Christ a donné sa vie, mais regardez ce qu'il est dit. Il a été trahi. Les apôtres, eux aussi, vont l'expérimenter. Il nous dit la chose suivante. Luc 6, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Souvent quand je dis, qui est prêt à tout donner? Il y a des gens qui lèvent leurs mains, mais c'est toujours ceux qui n'ont rien. Et là, c'est pas trop difficile. C'est toujours... L'autre jour, justement, on était avec mon frère Gresselin, avec les architectes, avec l'architecte et puis des entreprises qui doivent... faire l'agrandissement ici, et puis il parlait, on pourrait faire ça, on pourrait faire ceci, on va faire ça, on va faire ceci, moi j'écoutais, ouais, tout d'un coup je me suis souvenu, mais c'est toi qui payes, ah! Alors j'aurais dit, dites donc, c'est drôle comme c'est facile de dépenser l'argent des autres, hein? Se donner, sans rien espérer, inviter sans espérer de retour, sans calcul. Ça n'existe pas ici. On n'invite jamais par calcul. Mais quand l'autre ne nous réinvite pas, on se dit, je suis déçu. Pourtant, je n'avais pas raté mon place ce jour-là. C'est une mentalité, un état d'esprit, un changement total. Un changement profond. Plus de frustration. Parce que j'ai donné. Vous savez qu'il y a un proverbe qui dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Et parfois, on essaie de reprendre ce qu'on a donné, sous différentes formes. Oh, on est très spirituel, surtout dans l'église. On va pas dire les choses comme je l'ai dit ce matin. Samuel, c'est pas bien ce que tu fais là. Tu nous culpabilises. Non, c'est pas ça. Je dis des choses qui existent. Certains donnent, mais c'est pas un don, c'est de l'investissement. C'est différent. D'autres, quand ils vous ont donné, vous êtes leur otage. Ils donnent pour ensuite vous le reprocher. Tiens, ils vous prêtent une fois la voiture. Mais quelques temps après, vous pouvez être sûr qu'ils en ont besoin 10 fois de la vôtre. Et si vous ne répondez pas, ah, je suis déçu. Frères et sœurs, donner, c'est gratuitement. C'est comme ça dans le mariage. Le couple est constitué de deux hommes... Ce matin, Le couple. Vous vous rendez compte à quel point on peut être influencé maintenant? Mais c'est fou, hein? Le couple est constitué de deux personnes qui se donnent l'une à l'autre. Maintenant, il y a différentes déclarations de mariage. Écoutez. La première, c'est « Je t'aime ». Tiens, viens Dominique, viens. Viens, s'il te plaît, viens. La déclaration peut être « Je t'aime ma chérie, je te désire comme mon épouse afin de te rendre heureuse ». Ça te fait du bien, hein? Ou alors la deuxième déclaration, ça peut être « Je t'aime, je te désire comme mon épouse afin que tu me rendes heureux ». C'est pas la même chose, hein? C'est différent. Quelle est la situation normale du mariage? C'est de se donner l'un à l'autre. Je ne cherche pas mon bonheur, mais je cherche ton bonheur. Elle va tout me casser. Je ne cherche pas mes intérêts, je cherche tes intérêts. Êtes-vous à côté de votre épouse? Dites-lui. Je ne cherche pas mes intérêts, je cherche tes intérêts. Et les épouses, dites la même chose à votre mari. Non, ne restez pas figés, là, je vois des couples raides, là. Non, non, voilà, dites-le lui. Je ne t'ai pas prise pour me rendre heureux, je t'ai prise pour te rendre heureux. Voyez la différence? Écoutez, Jésus dit, ils deviendront une seule chair. Comment est-ce possible? Uniquement si l'un se donne à l'autre? Écarte-toi tes bras, Dominique. Voilà, elle se donne à moi. Non, vas-y. Elle se donne à moi et je me donne à elle. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Mais maintenant, j'ai pas fini. Imaginez que on se marie, mais moi je veux surtout qu'elle me rende heureuse, qu'elle me rende heureux. Et elle veut que je la rende heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura jamais fusion. On va être deux individualités, l'une à côté de l'autre, en train d'essayer de manipuler l'autre. Ça sera dos à dos. Et quand tu as envie que l'autre fasse quelque chose, tu pousses. Et c'est à celui qui pousse le plus. C'est tout le temps de la rivalité, de la compétition. C'est tout le temps des reproches. Et elle s'est poussée, je vous promets, hein. Vous n'êtes pas dans une relation d'échange, vous êtes dans une relation de conflit. Et chaque fois que vous gagnez, l'autre est frustré parce qu'il a dû renoncer. Mais quand les deux disent « Je me donne à toi », eh bien, je vais vous dire ce qui se passe. Elle dit par exemple « Je me donne à toi ». Je lui dis « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?»« Je voudrais aller au McDonald's. Bon. » Alors qu'est-ce qui se passe quand on est une seule chair? Vous avez vu? Ça change la vie. Ben moi, je vais vous confesser honnêtement quelque chose. On a mis des années à comprendre ça. Et pendant des années, on était dos à dos en faisant du... D'ailleurs, t'as encore gardé des bons coups, hein? Ouais. On s'est disputé, on s'est déchiré, on s'est fait beaucoup de mal. C'est pas mon thème ce matin, j'ai pas le temps d'aller dans les détails. Mais je vous assure, ceux qui me connaissent et ma famille, je bénis Christian et Karine qui ont toujours prié pour nous. Eh bien, nous avons été souvent dans des situations de conflit. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, mais tu dis que tu aimes ta femme, mais tu l'aimes pas. Tu t'aimes toi et tu l'utilises pour toi. Et puis, chaque fois qu'il arrivait quelque chose, le Seigneur me donnait tort. Je vous l'avais dit, un jour, j'étais à Nice, je devais prêcher. On s'était fait la tête pendant des jours, c'était en vacances, terrible. Et moi j'avais dit, Seigneur, ce qu'elle a fait c'est injuste, c'est contre ton règne à toi, je vais lui résister. Et je vais résister au nom de Jésus. Ah ouais, mais si déjà je suis pasteur, hein. Je vais résister au nom de Jésus. On est arrivé à l'endroit où je devais prêcher, on s'est assis, elle est venue avec, parce que là il faut quand même faire bonne figure, ça va, oui, alléluia, amen. Tu sens le courant électrique, on mettrait une ampoule, elle s'allume tellement il y avait de la tension. Et j'étais convaincu d'avoir raison. Je suis encore convaincu, mais je vais vous expliquer ce que je veux vous dire. C'est que à ce moment-là, dans cette situation-là, Dieu parlait à mon cœur. Et Dieu va m'interpeller. Au moment où je dois prêcher, une femme se lève et prophétise. Et elle dit, mon serviteur, toi qui vas annoncer la parole, avant d'annoncer la parole, réconcilie-toi avec ta femme. Eh bien, c'était Moi, j'ai dit, Seigneur, c'est pas juste. Hein. T'as un parti pris, t'es toujours de son côté à elle. Et j'ai compris une chose ce jour-là. J'ai encore mis 3 jours à lui dire pardon. 3 jours. Malgré le fait que Dieu ait intervenu comme ça, et je discutais avec Dieu. C'est pas juste, c'est elle. T'as vu ce qu'elle m'a fait, et t'as vu, etc. Et au bout des 3 jours, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il me dit, mon problème à moi, c'est pas de savoir si t'as raison ou pas. Mais ta réaction n'est pas digne de ce que tu es, mon serviteur. Qu'elle ait tort ou raison, tu n'avais pas le droit de réagir comme ça. Change. Et là, je me suis humilié. J'ai demandé pardon en ayant raison. Ça arrive. Maintenant, je veux terminer. Le don de soi dans l'Église et en tant qu'Église. Vous savez, malheureusement, j'ai constaté que ce qui devrait être naturel dans l'Église ne l'est pas toujours. Et c'est pas propre à nous aussi. C'est pas propre à notre génération. Il semble que ça dure. Et ça dure depuis l'Église primitive. Paul, s'adressant aux Philippiens, dit « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Pourtant, Jésus a établi la règle. S'il veut venir après moi, qu'il cesse de penser à lui-même. Si tu viens dans ce lieu, il faut que tu cesses de penser à toi. Si tu veux suivre Christ, il faut que tu cesses de penser à toi-même. Si tu veux être son enfant, il faut que tu cesses de revendiquer. C'est mon droit, c'est ceci, c'est... Il faut que tu cesses. Dans l'Église primitive, ce principe était largement partagé. Écoutez. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient du pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Frère, je ne dis pas qu'il faut que nous reproduisions ce modèle-là. Exactement, puisqu'ensuite on voit l'Église évoluer différemment. Mais l'état d'esprit était celui-là. Et moi je voudrais que l'état d'esprit dans l'Église soit celui-là. Tu es le bienvenu dans ma maison. Ma voiture peut te servir. Tiens, il va y avoir l'agrandissement. Avec l'agrandissement, on aura peut-être un peu moins de place pendant le temps où les machines sont là. Au lieu que tu prennes ta voiture, je vais te chercher. Oui, mais ça fait 3 kilomètres en plus. Qu'est-ce que c'est 3 kilomètres pour emmener mon frère ou ma sœur? Changement de mentalité. Bien des recommandations faites dans les épîtres disent cela. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une église qui vit le don de soi est une église dont les membres sont heureux parce qu'ils s'épanouissent. Et je voudrais ce matin, en tant que pasteur, vous remercier tous parce que j'ai la grâce d'être avec l'équipe pastorale à la tête d'une église dans laquelle vous nous permettez d'être généreux à l'égard des autres. Tout ce qui est investi pour la télévision, pour le net, pour les églises annexes, et Dieu seul sait combien ça a coûté et combien a été investi. Mais vous l'avez fait sans rien demander en retour. Vous avez dit, pourvu que l'évangile soit annoncé, pourvu que notre prochain soit aidé. Vous n'avez pas investi, vous avez donné. Et j'aimerais vraiment vous remercier de tout mon cœur. Je suis fier de pouvoir être pasteur dans une telle église. Je vous remercie, mais je crois que nous devons encore faire des progrès. Encore aller plus loin, au niveau individuel, des uns envers les autres. Nous pouvons aujourd'hui bénéficier de l'aide de la radio. Nous envoyons des émissions en Afrique, etc. Encore l'autre jour, un pasteur du Burundi me demandait si nous allions lui donner des émissions gratuitement pour le Burundi. Ils viennent d'ouvrir une télévision. Et j'ai dit, écoutez frère, c'est avec joie que j'accepte parce que l'Église a compris une chose. Nous investissons non pas pour nous, mais nous investissons pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ils avaient tout en commun. En d'autres mots, ils ne disaient pas, ça c'est à moi. Mais ils s'aimaient, ils se donnaient, ils se secouraient. Je termine en disant le mot suivant et j'aimerais qu'il vous reste gravé. Je désire, en tant que pasteur dans cette maison, vous donner l'opportunité de vivre le don de vous-même. Certains le vivent en s'engageant dans l'humanitaire et dans bien des choses, mais ça va au-delà. Le don de soi, c'est autre chose. C'est ma vie que je donne. Le reste, c'est ce que je fais. Le reste, c'est juste ce que je fais. Ce que je fais, je peux varier. J'aimerais vous encourager à venir dans ce lieu en disant, je veux me donner, je veux m'engager, tiens, au milieu des enfants. Je veux pas simplement consommer de l'église, je veux donner. Je vais m'engager. J'ai compris que m'investir pour les enfants, me donner pour les enfants, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Un jour, ces enfants grandiront, aimeront Dieu, auront une famille. Dernièrement, je prêche à Martigny, il y a une semaine. Excusez-moi, vous suivez pas toujours tous mes périples. J'étais à Martigny, j'étais à Moutier ces jours, j'étais à Reconvilliers. Et je fais souvent cela en semaine, pour être là le dimanche matin avec vous. Donc en semaine, je suis souvent en voyage. C'est pourquoi parfois vous avez du mal à me joindre au téléphone ou à avoir des rendez-vous. Mais je peux vous dire une chose, parce que vous me donnez la liberté de circuler, des églises sont encouragées et bénies. Et ça, c'est également un don. On pourrait dire, c'est le pasteur doit rester, etc., etc. C'est notre... Frères et sœurs, nous donnons pour le royaume. Et nous ne donnons pas pour nous-mêmes. Maintenant, je voudrais vraiment donner l'opportunité à chacun de vivre le don de soi. Et je crois que le meilleur endroit pour le vivre, c'est les cellules de maison dans lesquelles nous nous retrouvons à peu de personnes. Il y a peut-être ce matin quelqu'un qui veut dire, moi je serais prêt à faire don de ma maison. Quand je dis don de ma maison, c'est pour les cellules de maison l'ouvrir. Je n'ai pas dit qu'il faut me donner votre maison. Certains sont là et disent, surtout ceux qui en ont une, les autres, ils rigolent, ils disent « Ah !» Non, c'est « Pasteur, je suis prêt à ouvrir ma maison pour que les personnes puissent venir. Moi, je ne peux pas animer une cellule, je ne suis pas encore prêt à ça, mais je peux ouvrir ma maison. » S'il y a quelqu'un qui est prêt, moi, je suis prêt à recevoir votre demande dans la cellule de maison, don de sa personne. Pour devenir responsable d'une cellule, il y en a peut-être qui sont là, qui ont la capacité maintenant. Nous sommes prêts à vous former. Don de son temps pour écouter, visiter, encourager dans la cellule. Le but, c'est aussi de visiter les autres, de les voir, de les rencontrer. Don de vos qualités de pâtissier ou de pâtissière. C'est le moment de servir les autres. Vous allez leur faire quelque chose de bon. Vous allez vous réjouir en le faisant. Et eux, ils vont se réjouir en le mangeant. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Don de vos connaissances bibliques, vous allez les partager dans les moments d'échange, vous allez partager ce que vous connaissez, vous le gardez pas pour vous, vous le donnez aux autres. Vous allez partager vos talents musicaux, il y a des musiciens ici dans les cellules, on a besoin de musiciens. Garde pas ta guitare pour toi, vas-y, engage-toi, vis pleinement l'évangile, vis le don de toi-même. Et je te dis, la cellule est un excellent endroit, parce que tu vas être frotté également à des gens différents. Tu vas être parfois déçu, tu vas être contrarié, tu vas découvrir ton propre caractère, tu vas te découvrir toi-même. Tout d'un coup, tu vas manquer de patience, tout d'un coup, tu vas avoir envie d'en envoyer quelques-uns sur la lune. Mais ça prouve que t'es pas encore mort. Alors le Seigneur continuera à faire son œuvre. Faisais ça, l'église s'est constituée en cellule de maison, et je crois que c'est une bénédiction. L'autre jour, jeudi dernier, nous avons vécu un moment pour moi tellement précieux, où les uns les autres nous pouvions échanger, où les cœurs se sont ouverts. Frères et sœurs, voulez-vous changer la société? Cela ne commencera que par votre propre changement. Et votre propre changement, eh bien pour changer, il faut se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, il faut être confronté à la réalité. J'aimerais vous inviter à intégrer les cellules. Il y a toute la liste des adresses des cellules derrière. Et je suis prêt à en ouvrir encore d'autres si c'est nécessaire. Frères et sœurs, investissez-vous pour le Seigneur. Donnez-vous. Arrêtez de penser à vous-même. Pendant que je termine, que nous fermons nos yeux, j'ai choisi un chant pour vous, un chant d'espérance, que mon ami Philippe Decourou a chanté. Et avant qu'il soit mis en marche, pendant que vos yeux sont fermés, j'aimerais vous dire que le don de soi est une démonstration de l'amour qui nous anime. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, frère, sœur. Comment puis-je aimer l'autre sans me donner à lui? Comment puis-je l'aimer sans l'aider? Certains diront, frère, j'étais tellement déçu. Je sais, moi aussi. Mais j'ai réalisé que si j'étais déçu, c'est parce que à quelque part je l'ai fait que pour la personne et j'ai oublié que je le faisais à cause de Jésus qui habite en moi. L'amour pour Dieu restera toujours la seule motivation qui vous donnera la force d'agir. Si je n'ai pas l'amour, dira l'apôtre Paul, je ne suis rien. Celui seul donc ce matin qui accepte de mourir à lui-même en se donnant s'épanouira, se multipliera, sa vie aura un sens, il aura de la joie à se donner. Celui qui refuse ce processus restera malheureusement isolé et malheureux. Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voulez-vous porter du fruit? Acceptez de mourir. Voulez-vous que cette église soit une église encore plus chaleureuse? Que dans ce lieu, on voit la famille de Dieu? Que dans ce lieu, on ait l'impression de rentrer dans le deuxième chapitre des Actes en disant, mais qu'est-ce que ces gens s'aiment? Mais c'est fou. Ils sont toujours prêts à se tendre la main, à s'entraider si nécessaire. Ils ne murmurent pas quand quelqu'un arrive chez eux. C'est beau. Il y a besoin d'un coup de main pour les écoles du dimanche, ou pour le parking, ou pour la traduction, ou je ne sais, les techniciens, pour la télévision, pour les caméras. Ils sont là, ils sont toujours prêts à partir et à se donner. Frères et sœurs, mon rêve, et j'espère, je suis un homme qui espère toujours, je suis un homme de foi, et je veux croire là où parfois il n'y a plus rien à croire. Ce n'est pas le cas ici. Vous êtes pour moi un sujet de joie pour beaucoup d'entre vous, mais je vais me dire, allons plus loin. Et le monde alors regardera. Écoutez bien, et je termine, c'est la dernière phrase. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes ses disciples. Tout d'un coup, l'Église deviendra un modèle de société pour la société. Et ce que eux n'arrivent pas à faire malgré toutes les subventions, malgré toutes les réformes, malgré toutes les nouvelles lois, l'Église va le vivre naturellement, sans loi, sans obligation, parce que la loi de l'amour, c'est pas une loi, c'est une liberté dans laquelle on entre.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.